Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nature sauvage et Urbania. Au programme, le réveil printanier des eaux, le parc national de la Yamaska et souvenirs d'unis avec trois ingénieurs exceptionnels de l'ETS. Bonne écoute.
Le parc national de la Yamaska, le réveil printanier des eaux, un texte d'Audrey Martel, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55. Parmi les trésors de la biodiversité que recèlent les parcs nationaux québécois, une perle se dissimule dans la région des Cantons de l'Est. Un nain chez les géants, le parc national de la Yamaska n'occupe qu'une superficie de 13,4 km², mais est néanmoins constitué d'une variété surprenante de milieux et chargé d'une histoire hors du commun. À découvrir ce printemps. C'est en 1983 que le parc national de la Yamaska est créé, or l'aventure ayant mené à son élaboration a commencé bien avant. Occupé longtemps auparavant par des agriculteurs qui y exploitaient la terre et les érablières, ce territoire était traversé du nord au sud par une route dont le tracé demeure visible par endroits. Devant la nécessité de régulariser les eaux de la rivière Yamaska et de fournir à la ville de Granby une source d'eau potable stable, un bassin de 4,7 km² est creusé sur les lieux au milieu des années 1970. À la suite de la construction d'un barrage et d'une digue auxiliaire sur la rivière Yamaska Nord, la crue printanière de 1977 remplit la gigantesque cuve qui prend officiellement le nom de réservoir Chouanière. Quelques années plus tard, afin d'offrir des activités récréatives et de préserver un échantillon de nature autour de ce vaste point d'eau, le parc national de la Yamaska voit le jour, proposant aux visiteurs un espace étonnant et encore actuellement en pleine transformation naturelle. 50 ans à peine auront suffi pour que se métamorphose ce lieu où une promenade devient vite dépaysante. L'histoire, source de changement. Ce n'est pas tous les jours qu'un environnement est bouleversé par la création d'un magnifique lac, d'un réservoir. Des vestiges de cette métamorphose sont toujours perceptibles et confèrent son charme au parc. Ainsi, des murets de roches envahis de végétation définissent les contours de friches qui se révèlent en fait être des champs que les cultivateurs avaient débarrassés des roches en les repoussant aux limites de leurs terres. Dans le secteur nord du parc, une population abondante de cerfs de Virginie se cantonne dans les ravages hivernaux qu'offrent ces friches, se régalant des ramilles des pommiers sauvages qui y ont poussé. Dans certains sentiers se dressent des érables centenaires, témoins vivants de l'ancestrale vocation acéricole de ce terroir. Ces arbres, aujourd'hui majestueux et aux racines partiellement enfouies dans un sol forestier redevenu sauvage, incarnent l'image de sages et forts aïeux et le temps où ils n'étaient que de simples fournisseurs de sève sucrée est révolu. D'autres essences ont également de quoi surprendre, tels ces conifères en rang d'oignons, survivants d'une plantation abandonnée. Par bonheur, le sol couvert de débris végétaux au-dessus duquel s'étendent des branches lourdes de mousse et de lichen en fait oublier le côté propre et ordonné, donnant à la scène un air de sylve enchantée où vivent des sorcières au pouvoir mystérieux. Et que dire du chemin qui traversait d'anciennes mémoires cette contrée? Quand l'eau du réservoir vient à s'abaisser, la cicatrice routière réapparaît vaguement dans le décor. Si le paysage a été fortement marqué par les activités humaines, la nature reprend progressivement ses droits. Il est fascinant d'observer cette forêt effacer lentement mais sûrement les blessures d'antan, tout en conservant quelques traces de son histoire. L'eau, source de vie. Le réservoir Chouanière aura beau être de création artificielle et dissimuler un vieux chemin, cela n'a pas empêché une multitude de plantes et d'animaux de coloniser ses eaux et ses rives. La vie, dès qu'elle trouve un milieu favorable, ne perd jamais de temps à s'installer. L'immense réseau hydrographique québécois favorise par ailleurs des échanges rapides entre étendues d'eau. En quelques années, poissons, amphibiens, insectes, algues et autres formes de vie aquatique se sont établis sur ce lac neuf, vierge de compétition. Une balade printanière en périphérie du lac démontre avec éloquence que la vie grouille dans le réservoir ainsi que dans les ruisseaux adjacents et les fossés inondés. Les oiseaux migrateurs, dont la sauvagine, débarquent en grand nombre et en alternance, diversifiant les chants et les cris qui envahissent l'espace. Une à une, chaque famille assure sa place. Oies, canards, parulines, oiseaux de proie. Sans oublier, bien sûr, les espèces qui ne sont que de passage, telles que le junco ardoisé. D'autres oiseaux, qui ont été présents tout l'hiver dans le parc, modifient leurs habitudes, comme le criard jais bleu, qui module son chant dans le but de charmer sa douce. Ailleurs, ce sont les chants d'amour des grenouilles qui résonnent pendant que dorés jaunes, perchaudes, grands brochets et achigans à petite bouche, dans l'eau encore froide, simulent de leur nage le ballet aérien scintillant des libellules. Vous écoutez le Parc national de la Yamaska, le réveil printanier des eaux, un texte d'Audrey Martel, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55. C'est en effet au printemps que l'eau se fait omniprésente dans le parc. Lors de la fonte des neiges, le débit de la rivière Yamaska Nord augmente et s'accélère, engendrant maints canaux secondaires qui s'emplissent d'une eau claire, dans laquelle plusieurs espèces d'amphibiens iront se reproduire, dont la salamandre sombre du Nord, l'emblème du parc. Si cette dernière réside généralement au sommet des montagnes, là où l'eau est la plus saine, elle a toutefois trouvé dans le parc un milieu adéquat, témoignage de la pureté de ses eaux. On y recense aussi la salamandre à quatre orteils, de même que la salamandre pourpre, une espèce vulnérable au Québec. Si les salamandres sont nombreuses, elles ne sont pas les seules espèces se trouvant dans une situation précaire à profiter de ces habitats humides. Une vingtaine d'espèces fauniques à statut particulier vivent dans un milieu ou un autre du parc national de la Yamaska. Parmi la gent aviaire menacée, s'y plaisent notamment le grèbe esclavon, aisément reconnaissable à son œil rouge vif et à la coloration inusitée de son plumage, ainsi que la sterne caspienne, la plus imposante des sternes, qui, évoquant à distance la forme d'un goéland, s'en distingue par son puissant bec de couleur rouge-orangé. Sans nul doute, les passionnés d'ornithologie goûteront des instants de pur agrément autour de cette masse d'eau. D'autres animaux sortent de leur hibernation ou de leur isolement hivernal à différents moments, laissant quelques indices derrière eux. grappe d'œufs de grenouilles des bois, traces dans la boue de pattes de pécan ou de raton laveur, marques de dents de castor sur l'écorce des arbres. Autant de signaux que le réveil de la nature va bon train, le tout rythmé par les journées qui s'allongent et le mercure qui grimpe. La très large majorité des bandes riveraines du côté nord du réservoir sont incluses dans des zones de préservation qui totalisent 6,8 km², soit plus de la moitié du territoire du parc, qui comprend également deux zones de préservation extrême du patrimoine, représentant quant à elles 0,3 km². Le parc abrite au-delà de 500 espèces floristiques, dont certaines rares. À mesure que le sol se réchauffe, émergent les plantes. D'abord, sur la berge d'un ruisseau, le verâtre vert surgit avec ses grandes touffes éclatantes s'épanouissant au soleil. La semaine suivante, des feuilles plus discrètes ont recouvert le sol en un tapis unique et çà et là, de jolies fleurs jaunes tournées vers le bas clament l'arrivée de l'érythrone d'Amérique. Les trilles, qu'ils soient rouges ou ondulés, se manifestent à peu près en même temps. Puis, ce sont les fougères qui déploient leurs frondes. Cette séquence à laquelle obéissent les plantes leur permet de jouir de l'ensoleillement disponible ou de la venue des pollinisateurs, selon leurs besoins. Une fois les bourgeons des arbres développés en feuilles matures, peu de lumière parviendra au sol. Ce sera alors au tour des plantes d'ombre de voler la vedette, et il sera impossible de rester indifférent devant ces fougères de diverses espèces qui s'étalent dans les sous-bois. Cette succession, bien que plus rapide et évidente au printemps, se poursuit durant l'été et même jusqu'à l'automne. L'eau étant un élément clé du parc, les milieux humides sont nombreux et fort diversifiés. L'été venu, quand ces terrains se seront asséchés, ils passeront souvent inaperçus aux yeux des visiteurs distraits. Un paysage qui présente l'aspect d'un marais au printemps ressemblera peut-être à un boisé ou à une friche plus tard en saison. L'observateur attentif, lui, reconnaîtra ces zones qui, quelques semaines plus tôt, était encore immergé. De fait, les attributs du sol y sont tels qu'ils dictent ce qui y pousse le reste de l'année. La clétonie feuille étroite, délicate fleur mauve d'avril, et le populage des marais, splendide fleur jaune printanière, égayent d'ailleurs certains coins du parc qui semble sec, alors que, comme le nom du populage le laisse entendre, c'est dans les milieux humides que prospèrent ces plantes. Le printemps, source d'émerveillement. Le printemps est une période de toute beauté à consommer sans modération et dans les environnements les plus variés possibles afin de profiter au maximum de la prodigieuse évolution qui s'y déroule. Qu'on cherche la photo parfaite ou le simple plaisir de contempler la nature, le parc national de la Yamaska ravira quiconque y posera le pied. S'il fait figure de lilliputien parmi la plupart des autres parcs nationaux de la province, sa force réside dans ce qu'il est dans son fondement, un territoire foisonnant de milieux humides, de diversité, de vie, de changement et d'histoire. Si vous rêvez d'y aller, situé sur le boulevard David Bouchard à Roxton Pond, le parc national de la Yamaska se trouve près de la ville de Granby. De Montréal, on y accède en empruntant la sortie 68 vers Granby de l'autoroute 10 Est. De Québec, on y parvient par l'autoroute 20 Ouest qu'il faut suivre jusqu'à Saint-Eugène avant de prendre la direction du sud pour parcourir quelques rangs de campagne aux superbes paysages. C'était le Parc national de la Yamaska, le réveil printanier des eaux, un texte d'Audrey Martel, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55.
Souvenir d'Uni avec trois ingénieurs exceptionnels de l'ETS. Un texte de Philippe Julien Bougie, paru le 8 mars 2023 dans Urbania. Urbania et l'École de technologie supérieure, ETS, s'unissent en cette Journée internationale des droits des femmes pour vous faire découvrir trois ingénieurs au parcours inspirant. La seule chose intelligente que je possédais avant mes 18 ans, c'était ma calculatrice. Se remémore Darine Ameyed, qui a grandi sans ordinateur. Aujourd'hui, l'intelligence fait partie de son quotidien. Elle travaille en intelligence artificielle, plus précisément en intelligence ambiante. Co-fondatrice et chef scientifique d'une start-up en technologie et santé connectée, Darine a pu collaborer avec l'Agence spatiale canadienne à l'occasion du Challenge M2S2. Au Québec, depuis plusieurs années, elle est aussi chercheuse et chef d'équipe de cellule IA au ministère de la cybersécurité et du numérique. Elle a également pour mandat la mise en œuvre de la stratégie d'intelligence artificielle dans le secteur public, soit de trouver les façons dont l'intelligence artificielle pourrait aider les Québécois et Québécoises dans diverses sphères de la société. Ce projet avec le gouvernement, c'est la chose dont je suis le plus fière, dit Darine juste avant de s'arrêter de parler. Puis, avec une étincelle dans les yeux et un trémolo dans la voix qui suggère l'émotion ou l'excitation, elle ajoute « En fait, il y a quelque chose d'autre dont je suis tout aussi fière. » La postdoctorante en ingénierie a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Cela date de l'époque où elle vivait encore en Tunisie. Une de ses premières entreprises, fondée alors qu'elle était étudiante au bac, était une société d'art numérique. Oui, oui, Darine est aussi artiste. C'est après ses études en France, où elle a obtenu une maîtrise en art numérique et technologique, qu'elle s'est envolée vers le Québec pour faire son doctorat et son postdoctorat à l'ETS. Si son premier contact avec l'Université montréalaise date de 2011, l'ingénieur est toujours resté proche de son alma mater. Jusqu'en 2022, elle était associée de recherche au laboratoire Synchromédia de l'ETS, spécialisé en canaux de communication multimédia. Le monde universitaire et de la recherche, c'est là où je me sens le plus à ma place. Ce n'est pas tout d'innover. Il faut aussi aider les gens à comprendre l'innovation scientifique pour qu'elle puisse aider la société. À cet effet, Darine a fait de la vulgarisation scientifique en collaborant avec Substance, un site web de l'ETS qui traite d'actualité scientifique et d'innovation. Une fois, une petite fille de la ville où vivent mes parents en Tunisie est venue me voir et m'a dit que j'étais son modèle. Découvrant qu'elle était un symbole de réussite pour cette gamine, Darine s'est sentie investie d'une mission, aider celle qui avait un parcours semblable au sien à réussir en génie et en science. C'est pour cette raison qu'elle s'implique dans les Ingénieuses, un regroupement étudiant de l'ETS qui a pour mission de favoriser l'intégration des femmes dans le domaine du génie. Ce n'est pas toujours facile d'être une femme dans un milieu d'hommes, encore moins d'être une femme racisée. Je sais que d'autres vont avoir à surmonter les mêmes obstacles que moi, mais j'espère pouvoir les aider à mieux réagir que je l'ai fait devant des comportements sexistes ou racistes. D'un geste naturel, elle montre son sac de la main. Une épinglette des ingénieuses le décore. Vous écoutez? Souvenir d'Uni avec trois ingénieurs exceptionnels de l'ETS. Un texte de Philippe Julien Bougie, paru le 8 mars 2023 dans Urbania. Les sièges de voiture sont-ils sécuritaires pour les femmes? Il faut plus de filles parce que nous sommes bonnes, rigole Marie-Hélène Beauséjour, professeure à l'ETS. Puis, plus elle y pense, moins elle en rit. Pour vrai, on est vraiment bonnes. Depuis quelques années, Marie-Hélène participe à Les filles et les sciences, un événement qui vise à faire découvrir aux adolescentes les professions liées aux sciences. Pour la professeure au département de génie des systèmes de l'ETS, pouvoir compter sur plus de femmes ingénieures est nécessaire pour la qualité de la recherche et des avancées scientifiques. Dans mon domaine, la grande majorité des recherches ont été menées auprès de jeunes hommes en bonne santé. Si on veut des données de qualité, on a besoin de toutes sortes de personnes qui pense à faire des recherches sur tout le monde. Le domaine de Marie-Hélène est assez précis. Elle tente de mieux comprendre la biomécanique des femmes et des personnes âgées pour la conception de dispositifs de sécurité. Par exemple, les sièges de voiture répondent généralement à des normes de sécurité basées sur des recherches faites auprès d'hommes. Ces sièges sont-ils aussi efficaces pour les femmes que pour les hommes en cas d'accident de voiture? Cela prend des scientifiques, comme Marie-Hélène, qui étudient l'impact des accidents sur le corps humain, pour le savoir. Faire de la recherche requiert de la patience et de la minutie. Il faut des années de travail pour améliorer de menus détails qui, à long terme, améliore des milliers de vies. Sur ce plan, on peut faire un lien avec l'autre mandat de Marie-Hélène, enseigner. La première fois que j'ai donné un cours universitaire, j'étais la seule fille dans la classe, raconte-t-elle. Heureusement, les choses changent. Grâce aux divers programmes et activités de l'ETS, le nombre de femmes ne cesse d'y croître, aussi bien dans les classes qu'au sein du corps professoral. En résumé, que ce soit dans un labo ou devant un tableau, Marie-Hélène améliore le sort de la société. La passion d'enseigner. Un jour, après un cours, une étudiante est venue me voir. Curieuse. Elle se demandait comment j'avais fait pour pouvoir enseigner à l'université. Ses parents, des Haïtiens comme moi, avaient perdu leur titre professionnel en arrivant au Québec, raconte Suze Youance, chargée de cours et ingénieure conseil. C'est pour accompagner des jeunes comme cette étudiante que Suze a commencé à s'impliquer bénévolement dans les activités femmes et sciences. Suze elle-même a été encouragée par sa famille à poursuivre une carrière scientifique. Son frère aîné, aussi ingénieur, lui avait dit de tenter sa chance à la très contingentée Université d'État d'Haïti, qui n'accepte sur concours qu'un petit nombre de candidats. 30 ans plus tard, il faut croire que j'ai bien fait de m'essayer, s'esclave-t-elle. En 2004, elle se lance un autre défi. celui de faire une maîtrise à Montréal à l'ETS. Sa thèse traitait des effets des tremblements de terre sur les bâtiments. Quelques jours avant sa soutenance, en janvier 2010, un séisme de magnitude 7,3 ravage son pays d'origine, emportant sur son passage des centaines de milliers de vies humaines. Suze se souvient. Tout de suite après ma présentation, ma directrice de maîtrise m'a dit « Tu ne retournes pas à Port-au-Prince. Tu restes à Montréal pour le doctorat. » 5 ans plus tard, ce doctorat a remporté le prix annuel du meilleur article de génie civil au pays. « Je vis ma matière et je vis ce que j'enseigne. » résume cette chargée de cours aguerrie pour décrire sa passion. Mais ce n'est pas tout. Suze veut avoir un impact durable auprès des jeunes ingénieurs, notamment celles qui sont issues de la diversité, en leur insufflant de la confiance en elles-mêmes. C'est pour cette raison qu'elle s'est impliquée dans le programme G. Change de l'ETS qui vise à encourager les jeunes femmes de 15 à 19 ans à choisir une carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Elle y a été mentor et, comme on pouvait s'y attendre, elle a réussi à y transmettre sa contagieuse passion. C'était « Souvenir d'Uni » avec 3 ingénieurs exceptionnels de l'ETS. Un texte de Philippe Julien Bougie, paru le 8 mars 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Claire Dorion à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.